Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 20 janvier 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran et le Pakistan rétablissent leurs relations diplomatiques. Israël a frappé Damas. 4 conseillers militaires du CGRI ont été tués en martyrs. Et la résistance irakienne a abattu un drone américain, Reaper. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le Pakistan a annoncé un rétablissement complet de ses relations diplomatiques avec l'Iran suite à la recrudescence des opérations antiterroristes à leurs frontières communes. L'annonce a été faite vendredi 19 janvier, après que le premier ministre par intérim du Pakistan, Anwar al-Haq Kakar, a tenu une réunion d'urgence avec les commandants de l'armée et les responsables du renseignement autour des questions relatives à la sécurité frontalière. Islamabad a donc décidé de reprendre pleinement ses relations diplomatiques avec Téhéran et les ambassadeurs des deux pays seront bientôt désignés. Le premier ministre pakistanais a déclaré vendredi qu'il était dans l'intérêt des deux pays de rétablir leurs relations telles qu'elles étaient avant le 16 janvier. À cet égard, le Pakistan accueillera favorablement les initiatives de l'Iran et lui rendra l'appareil. Le Pakistan et l'Iran sont deux États frères qui entretiennent des relations fraternelles et historiques marquées par le respect et l'affection, a-t-il indiqué. Le premier ministre pakistanais a ajouté que le Pakistan est un pays respectueux des lois et pris de paix, qui cherche des relations amicales et coopératives avec tous les pays, en particulier avec ses voisins. Plus tôt dans la journée, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian ont eu une conversation téléphonique, notamment au sujet de leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du renforcement de la sécurité des frontières. Le 16 janvier, la République islamique d'Iran a lancé de façon simultanée des attaques de drones et de missiles contre 2 fiefs de Jaish al-Adl sur le sol pakistanais, groupe terroriste qui a mené une attaque en décembre 2023 contre un commissariat de police de la ville de Rask dans le sud-est de l'Iran. L'attaque a fait au moins 11 morts parmi les policiers iraniens. Le 10 janvier dernier, une autre attaque du groupe terroriste contre un commissariat de police de la ville a également causé la mort d'un policier. Le 18 janvier, le Pakistan a mené des frappes contre des bases du Front de libération du Baloutchistan et de l'armée de libération Baloutch dans les régions proches de la frontière iranienne. Téhéran a condamné cette attaque qu'il a qualifiée d'inacceptable et de déséquilibrée. L'aviation israélienne a mené ce samedi 20 janvier une frappe contre Damas, capitale de la Syrie, faisant plusieurs morts et blessés. La télévision syrienne a fait part d'une frappe aérienne menée par le régime sioniste contre la banlieue de Damas. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que 4 de ses conseillers militaires ont été tués avec un certain nombre de forces syriennes. L'attaque visait un immeuble résidentiel de 3 étages dans le quartier Al-Mizar de Damas, qui abrite plusieurs missions diplomatiques. Une fois de plus, le régime sioniste barbare et criminel a lancé une agression contre la ville de Damas et un certain nombre des forces syriennes et 4 conseillers militaires de la République islamique d'Iran ont été tués en martyr lors du raid aérien mené par des avions de combat des forces du régime usurpateur, indique le communiqué du CGRI. La résistance islamique irakienne a assumé la responsabilité d'avoir abattu un célèbre drone américain Reaper qui avait violé l'espace aérien de l'Irak par l'Ouest. Dans un communiqué publié vendredi 19 janvier, la résistance irakienne, un groupe de coordination des combattants antiterroristes irakiens, a déclaré avoir abattu un drone américain avec des armes appropriées. Le drone abattu de classe MQ-9 Reaper était entré dans l'espace aérien irakien depuis la base aérienne voisine d'Ali al-Salim au Koweït, selon le groupe de résistance. L'armée américaine décrit le MQ-9 comme le premier drone chasseur-tueur conçu pour une surveillance de longue durée et à haute altitude. À la fin de son communiqué, la résistance est engagée à poursuivre ses attaques contre l'ennemi en menant des opérations contre les positions des États-Unis dans la région. La résistance islamique a d'ailleurs intensifié ses attaques contre des cibles israéliennes et américaines depuis le 7 octobre dernier en signe de soutien au peuple palestinien et de protestation contre la guerre génocidaire en cours menée par le régime israélien dans la bande de Gaza. Le commandement central des États-Unis a annoncé avoir mené des attaques dites préventives contre 3 lanceurs de missiles yéménites dans la province côtière de Hudaïda, en bord de la mer Rouge. Dans un communiqué publié sur X, le CENTCOM a affirmé « Les forces du commandement central ont mené le 19 janvier, vers 18h45, hors de Sana'a, des attaques contre 3 lanceurs de missiles anti-navires prêts à frapper dans la mer Rouge. » Précédemment, les États-Unis et l'Angleterre ont mené des frappes contre plusieurs sites au Yémen, auxquels Sana'a a répondu en ciblant des flottes américaines. Les attaques anglo-américaines surviennent après que l'armée yéménite a mené des opérations contre les intérêts israéliens dans la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb en soutien aux Palestiniens assiégés dans la bande de Gaza. La résistance palestinienne à Gaza continue de prendre pour cible les soldats et les véhicules blindés de l'armée israélienne dans tous les axes de combat, notamment au sud et au centre de la bande de Gaza. La résistance palestinienne est engagée dans de violents affrontements contre les forces d'occupation israéliennes au 105e jour de l'opération Tempête d'Al-Aqsa. Les affrontements se concentrent à Khan Younes, au sud de Gaza, ainsi qu'au centre de la bande côtière, notamment au nord-est du camp d'Al-Buraïd. Les brigades Al-Rassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé que leurs combattants avaient ciblé un char israélien Merkava dans le camp d'Al-Buraïd en utilisant un obus Yassin 105 de fabrication locale et visé les forces d'occupation israéliennes dans le camp avec des obus mortiers. Les tireurs d'élite d'Al-Rassam ont également ciblé un soldat israélien dans le camp palestinien à l'aide d'un fusil artisanal Al-Roul et ont ciblé 2 autres soldats à Khan Younes. À l'est de Khan Younes, les combattants palestiniens ont détruit 3 chars israéliens Merkava avec un engin explosif local, Shawaz, tuant 2 soldats ennemis. Juste après cette attaque, un hélicoptère israélien s'est chargé d'évacuer les soldats tués et blessés. Les brigades Al-Rassam ont publié des images montrant leurs combattants ciblant les forces israéliennes avançant près de la frontière de la ville de Gaza avec des obus mortiers et des roquettes de 107 mm. En outre, les combattants de la résistance palestinienne ont fait sauter un tunnel dans lequel se trouvait un certain nombre de soldats israéliens, faisant parmi eux des victimes après avoir réussi à les attirer vers le quartier d'Al-Tufa, à l'est de la ville de Gaza. Ils ont également ciblé un bâtiment fortifié abritant des forces spéciales israéliennes avec 4 obus RPG et ont affronté des soldats utilisant des armes automatiques. Les brigades Al-Rassam ont également fait exploser un engin explosif antipersonnel contre une force israélienne et se sont ensuite engagées dans des affrontements directs à Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Un haut commandant de l'OTAN affirme que les forces armées et les civils européens doivent se préparer à une éventuelle guerre avec la Russie. L'Allemagne estime qu'un tel conflit pourrait éclater dans moins d'une décennie. Le président du comité militaire des chefs nationaux de l'OTAN, l'amiral Rob Boer, a déclaré jeudi que l'alliance militaire se préparait à un conflit avec la Russie. « Nous devons, a-t-il dit, comprendre que nous ne sommes pas en paix et que c'est pour cela que nous avons des plans. C'est pour cela que nous nous préparons à un conflit. » L'amiral néerlandais a fait ses remarques alors que l'OTAN se prépare à lancer la semaine prochaine son plus grand exercice militaire depuis des décennies. Les exercices Steadfast Defender 2024 se dérouleront jusqu'à fin mai et impliqueront environ 9000 soldats des 31 pays membres de l'OTAN ainsi que la Suède, pays candidat. Baer a déclaré que l'ampleur de l'exercice était une démonstration du nouveau niveau de préparation de l'OTAN. C'est un nombre record de troupes que nous pouvons mobiliser pour mener un exercice de cette taille à travers l'Alliance, à travers l'océan, des États-Unis à l'Europe, a-t-il dit. Le ministre allemand de la Défense a également prévenu que la Russie serait en mesure d'attaquer les pays membres de l'OTAN dans moins d'une décennie. Nous entendons des menaces de la part du Kremlin presque tous les jours. Nous devons donc tenir compte du fait que le président Vladimir Poutine pourrait même un jour attaquer un pays de l'OTAN, avertit le commandant de l'OTAN. Même si une guerre avec la Russie n'est pas probable pour l'instant, a déclaré le ministre, nos experts s'attendent à ce qu'elle soit possible sur une période de 5 ans. À la fin de l'année dernière, l'Allemagne a réorganisé son armée pour la première fois depuis plus d'une décennie, invoquant la montée des menaces militaires contre l'Europe. Après que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine en février 2022, l'OTAN a déclaré que la Russie constituait la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Le directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a déclaré que Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Chaiben, s'exprimant à l'issue de sa visite à Gaza, a décrit cette zone comme l'endroit le plus dangereux pour les enfants. Je viens d'achever une visite de 3 jours dans la bande au Gaza, où j'ai pu coordonner avec les organisations locales et internationales les interventions d'urgence et faire le point sur les opérations humanitaires depuis ma dernière visite dans la bande au Gaza il y a 2 mois. Mais plus encore, j'ai pu rencontrer des enfants et leurs familles qui souffrent des conditions les plus horribles que j'ai jamais vues, a-t-il expliqué. Le responsable de l'UNICEF a averti que depuis sa dernière visite, la situation était passée de catastrophique à proche de l'effondrement. L'UNICEF a décrit la bande au Gaza comme l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une guerre contre les enfants. Mais ces vérités ne semblent pas être entendues. Sur les quelques 25 000 personnes qui auraient été tuées dans la bande au Gaza depuis l'escalade des hostilités, près de 70% seraient des femmes et des enfants. Le massacre des enfants doit cesser immédiatement, a-t-il insisté. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé vendredi 19 janvier, au 105e jour de la guerre dans cette région, que le nombre des morts s'était alourdi, passant à 24 762. Plus de 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Le communiqué du ministère précise que depuis le 7 octobre, 62 108 personnes ont également été blessées et plus de 7 000 personnes sont toujours portées disparues, sous les décombres, et les secouristes ne peuvent pas les récupérer. L'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme a annoncé dans un communiqué que depuis l'ouverture du dossier du génocide palestinien devant la Cour internationale de justice à La Haye, l'armée du régime sioniste avait tué plus d'un millier de personnes à Gaza. Contrairement au discours présenté par l'équipe d'avocats israéliens à la Cour internationale de justice pour rejeter l'accusation de génocide, les réalités sur le terrain prouvent qu'Israël n'a jamais cessé de commettre ce crime, même au moment où il se défendait devant le tribunal. regrette le communiqué de cette organisation non gouvernementale. La guerre à Gaza en est à son 105e jour, alors que le régime israélien n'a aucune idée ni perspective quant à son issue et n'a encore atteint aucun de ses objectifs initiaux déclarés. Le premier ministre du régime, Benjamin Netanyahou, a déclaré mardi lors d'une réunion avec les chefs du conseil local au quartier général du commandement sud de l'armée israélienne à Beersheba que la guerre à Gaza se poursuivrait jusqu'en 2025.
Au nom de Dieu, le miséricordieux, ce sont les premiers mots que je souhaite indiquer aujourd'hui à notre débat concernant la situation palestinienne que nous avons commentée depuis le 7 octobre ici. Aujourd'hui, nous savons que les Houthis, les Yéménites, les seuls à l'heure actuelle avec la résistance, bien entendu, de la région, à vouloir aider les Gazaouis face au blocus dont ils sont en souffrance, sont maintenant de nouveau sur la liste des groupes terroristes de la part des États-Unis, seul pays à vouloir confronter les pays du monde entier à ce qui se passe réellement à Gaza, non pas en attaquant de manière violente, mais tout simplement en empêchant les bateaux de passer sur le passage en mer Rouge, une chose qui leur est légitime, qui permet et qui est le seul finalement levier qui permet de faire comprendre à l'entité sioniste ce que c'est un blocus, comme ils le font subir aux Gazaouis. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord d'écouter le reportage que nous avons préparé à cet effet pour par la suite faire venir nos deux invités qui suivent les nouvelles du Moyen-Orient depuis des années et qui connaissent bien la situation. Je vous propose donc notre reportage.
Les États-Unis affirment avoir réinscrit le mouvement yéménite Ansar Allah sur leur liste des organisations terroristes, l'accusant d'attaques répétées contre la navigation internationale dans la mer Rouge. En réponse à ces menaces et attaques continues, les États-Unis ont annoncé la désignation d'Ansar Allah, également connu sous le nom de Houthi, comme terroriste mondial, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, dans un communiqué. Les responsables ont déclaré que cette décision signifiait que le mouvement de résistance populaire yéménite serait frappé par des sanctions. De hauts responsables américains ont déclaré aux médias occidentaux que la désignation prendrait effet dans 30 jours, et qu'elle pourrait également être annulée si les Yéménites cessent leurs attaques. Dans le cadre de leur soutien aux Palestiniens, les forces armées du Yémen ont ciblé au cours du mois dernier plusieurs navires appartenant à Israël ou naviguant à destination des ports des territoires occupés palestiniens dans la mer Rouge après de multiples avertissements. Le Yémen affirme que cette mesure a pour but de mettre un terme à la guerre génocidaire israélienne contre Gaza qui a jusqu'à présent tué plus de 24 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Cependant, les États-Unis et leurs alliés ont présenté l'action du Yémen comme une menace à la paix internationale. La semaine dernière, des avions de guerre, des navires et des sous-marins américains et britanniques ont lancé des dizaines de frappes aériennes contre le Yémen. Ils ont été suivis par de multiples frappes américaines ces derniers jours. L'Iran, la Russie, la Turquie et plusieurs autres pays ont vivement critiqué les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés pour leurs récents actes d'agression contre le Yémen, affirmant que ces pays portent l'entière responsabilité de la violation du droit international. L'administration de Donald Trump avait placé Ansar Allah sur la liste des organisations terroristes. Cela a incité les Nations Unies, les groupes humanitaires et certains législateurs américains à exprimer leur crainte que les sanctions ne perturbent les flux de nourriture, de carburant et d'autres produits vers le Yémen. En février 2021, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a révoqué cette désignation en reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen. Les Nations Unies qualifient la crise humanitaire au Yémen de grave, avec plus de 21 millions de personnes, soit les deux tiers de la population ayant besoin d'aide. Selon l'ONU, plus de 80% de la population a du mal à accéder à la nourriture, à l'eau potable et à des services de santé adéquats.
Nous revoilà donc sur les plateaux, tout de suite la venue de nos deux invités. Alors, le premier invité étant M. Bernard Cornu. Bonjour M. Cornu, fervent militant pour la cause palestinienne. On est ravis de vous avoir sur les plateaux de Presse TV.
Bonjour à vous et à vos frères et à Mme Aïssa Mmedani.
Merci M. Bernard Cornu. Alors vous l'aurez compris, notre deuxième invité étant Mme Aïssa Mmedani, qui a été notre experte sur la situation syrienne au moment où le terrorisme battait son plein dans la région. Vous suivez également la cause palestinienne depuis ses débuts et vous êtes militante pour cette cause. Bonjour Mme Mmedani, ravie de vous avoir avec nous sur le plateau de Presse TV.
Bonjour, merci de votre invitation, ravi d'être avec vous aussi et bonjour à M. Cornu.
Merci Mme Mmedani. On va commencer tout de suite par vous si vous le voulez bien. Alors concernant la situation du Yémen, parce qu'on oublie que ce pays qui décide d'être la voie de protection des Gazaouis, donc des Palestiniens, des Palestiniens à l'heure actuelle, sont de nouveau mis sur cette liste. Bon, une liste qui finalement n'est pas si importante pour eux, puisque ça fait quand même depuis 2011 qu'ils sont confrontés à être tout seuls face au monde, puisqu'on sait qu'il y a eu des attaques qui sont récemment arrêtées avec l'Arabie Saoudite en premier ennemi pour le Yémen face au fait qu'ils ne voulaient plus le président Hadi au sein du gouvernement du Yémen. Vous le savez très bien, Mme Mmedani, on a déjà eu des débats sur le Yémen, mais là, la situation elle semble extrêmement injuste, parce que finalement, sans le blocage de la mer Rouge, l'entité sioniste ne peut pas savoir ce qu'il en est d'être bloqué, puisque les ports sont bloqués, le matériel n'arrive plus jusqu'au port de l'entité sioniste. Finalement, c'est la seule chose qui pourrait faire comprendre à l'entité israélienne ce que ça veut dire de bloquer un pays, ce qu'ils font à l'heure actuelle, ce qu'ils font subir à une population de plus de 2 millions de personnes à Gaza. Est-ce que c'est vraiment juste? Alors, on va dire, est-ce que le mot juste est le bon mot? Mais est-ce que on n'est pas forcément dans une situation aussi injuste? Le seul pays à vouloir défendre, de nouveau, à être critiqué et être à l'amende devant le monde entier?
Écoutez, il est clair quand même que les États-Unis sont de connivence totale avec l'État fantoche d'Israël. Et ils ne sont pas seulement de connivence, mais ils continuent à soutenir cette agression israélienne contre le peuple de Gaza et contre le peuple palestinien depuis des années. Et là, ça s'est confirmé en fait depuis le 7 octobre avec un soutien indéfectible à tous les crimes en fait israéliens, au génocide, même un soutien indéfectible. Il faut quand même penser savoir qu'il y a un pont aérien qui est constitué entre les États-Unis et Israël, qui amène des munitions de plus en plus meurtrières et des armes de plus en plus meurtrières. Quand je parle des munitions de plus en plus meurtrières, ça veut dire qu'il y a des bombes qui sont de plus en plus importantes, des milliers de bombes. Et ils ont été en appui aussi au fait que toutes ces bombes qui sont déversées sur les civils hein, à Gaza, sur un territoire qui ne dépasse pas 32 km², et sur l'explosion des maisons, de toutes les tours d'habitation, en fait, aujourd'hui encore, hier et aujourd'hui et depuis une semaine. Khan Younes, qui est le théâtre d'un vraiment d'action terroriste israélienne terribles, aussi bien contre les blessés, contre l'hôpital, contre le seul hôpital qui continue à fonctionner, qui est au sud de Gaza, et contre les habitations civiles, des carrés d'habitations entiers, des tours entières qui ont été complètement abattus sur la tête de leurs habitants. Donc, je voudrais aussi rappeler la position des États-Unis aussi vis-à-vis du procès qui a été mené par l'Afrique du Sud contre Israël pour l'accusant de génocide. Les États-Unis refusent qu'il y ait la moindre enquête en fait contre Israël pour vérifier le génocide, pour constater en fait, parce qu'on le sait tous que c'est un génocide, puisque aujourd'hui il y a 24 000 morts et 60 000 blessés, 61 000 blessés, sans parler de tous ceux qui sont encore sous les décombres, des milliers de personnes qu'on n'a jamais pu secourir ni même sortir de décombres pour les enterrer. Ajoutez au fait aussi que les Yéménites, effectivement, soutiennent, et ils ont toujours annoncé qu'ils soutenaient la résistance palestinienne, qu'ils avaient annoncé et mis en garde aussi que de toute façon, si ça continue, nous allons bloquer les ports israéliens et puis tout ce qui passe par la mer Rouge pour Israël comme munitions, comme marchandises, etc., et tous les cargos israéliens. Ils ont annoncé et ils ont dit la navigation et les scènes est sauf pour tout le monde, tous les autres qui ne viennent pas à Israël, qui ne partent pas d'Israël. La seule condition qui permettra qu'on arrête de faire ce travail, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il y ait un arrêt de l'agression contre la population à Gaza.
Oui, c'est donc, vrai que les Yéménites l'ont bien dit.
Les positions des Yéménites sont claires, nettes et précises.
Les Yéménites n'ont même pas dit qu'ils attendaient qu'un État palestinien se fasse. Ils ont dit vous arrêtez le blocus à Gaza et nous arrêtons notre blocus en mer Rouge, ce qui paraît tout à fait très humain au vu de la situation humanitaire à Gaza. Alors vous avez parlé du fait que les États-Unis s'opposaient à trouver des preuves et à enquêter sur le terrain, mais en fait, malheureusement pour les États-Unis, j'ai envie de dire, entre guillemets, le mot malheureusement bien entendu, c'est que les enquêtes ont déjà été réalisées, puisqu'il y avait des membres d'organisations internationales, d'ONG présents sur place, qui ont dû être évacués, qui sont rentrés au pays, qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Ce ne sont ni des Arabes, ni des résistants, ni quoi que ce soit. Ce sont des médecins qui ont travaillé dans les hôpitaux, qui ont vu leurs collègues se faire tuer ou leurs collègues décider de rester sachant qu'ils allaient pouvoir être tués. Donc tout ça constitue déjà apparemment, de manière à part entière, l'enquête. Monsieur Bernard Cornu, pour venir à votre analyse, on sait que la situation à Gaza est telle quelle. On est en train d'en parler. C'est depuis le 7 octobre, nous sommes ici ensemble sur ces plateaux de Presse TV à parler toujours de la même chose. Les gens meurent, les enfants sont amputés sans anesthésie. Les gens sont en train de mourir de faim parce que c'est de plus en plus critique d'un point de vue nourriture. On entend des rumeurs en disant on va peut-être envoyer de la nourriture par avion, etc. Si le Qatar arrive à négocier certaines choses avec les Houthis, peut-être. On dit que les Houthis ne représentent pas le Yémen. Il y a beaucoup de rumeurs à l'heure actuelle sur les réseaux, par le biais des médias, même des gens qui disent ok, si l'entité sioniste gagne, on va dire que s'ils sont en train de gagner la guerre, on oublie le fait que le Hezbollah a déclaré de manière très précise que l'engagement militaire sioniste n'est pas aussi bien qu'ils le disent officiellement, qu'il y a beaucoup de morts du côté de l'entité sioniste qui ne sont pas déclarés. Ça, on oublie toute cette partie-là. Mais de l'autre côté, les gens commencent à se poser la question, si l'entité sioniste gagne, qu'est-ce qui va se passer à Gaza ? parce que tous les gens de Gaza, les 2 millions de personnes vivant, 1 500 000 personnes qui vivent à Gaza, ne sont pas tous du Hamas. Qu'est-ce que vous allez faire de Gaza qui a été complètement détruit, les institutions scolaires, les hôpitaux, les organisations même municipales, puisque les municipalités ont été directement touchées, également tout ce qui peut organiser la vie à Gaza. Et nous avons ces Européens qui disent « oui, ce sont des terroristes ». Oui, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, à la place des Yéménites, pour arrêter tout ça? Est-ce que finalement, Yémen, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attaquent ni un pays, ils n'attaquent ni une armée officielle, donc la souveraineté d'un pays. Ils bloquent le passage naval de bateaux qui s'en iraient vers l'Atlantique. Ce qu'ils ont plus ou moins le droit. Si on regarde le droit international, ils ne font rien réellement d'illégal, parce qu'ils utilisent un droit qu'ils ont, c'est-à-dire un passage dont ils en ont une partie de la souveraineté. Et c'est la seule chose qui permet de faire un levier psychologique quelque part. Outre le fait de la résistance. Vous-même, en tant qu'Européen, quand vous suivez le manque d'action européen, vous ne vous dites pas « c'est injuste qu'on s'en prenne au seul pays, finalement, qui, officiellement, avec sa souveraineté, est là pour les Gazaouis ».
Oui, il a fait en France et en Europe, dans le monde, il y a eu beaucoup de manifestations. Pour l'instant, on n'arrive pas à influencer beaucoup les gouvernements complices, les gouvernements occidentaux complices, notamment au niveau de l'Europe. Et à l'Assemblée française, seuls les députés de la France insoumise, donc notre gauche française radicale, critiquent très vertement la position du gouvernement français, qui refuse pour l'instant de soutenir la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide commis par Israël. Dans les télévisions publiques, on en a très peu parlé, on a surtout diffusé la contre-plaidoirie en défense de l'État israélien. Et le même nouveau ministre des Affaires étrangères français, M. Séjourné, en répondant à ces critiques très fortes du parti France Insoumise, a dit que accuser Israël de génocide était un crime moral, était une faute morale. Donc je pense qu'il comprend mal la chose. Et d'ailleurs, je peux relever que M. Séjourné a fait un lapsus dans sa réponse, puisqu'il a dit que la position française, la position du président français, permettait de garantir les souffrances des Palestiniens. Et je note aussi que dans sa conférence de presse, mardi dernier, à la fin de sa conférence, quand il a parlé du conflit entre Israël et la Palestine, le président français a dit à un moment « nous devons cesser ces attaques » qui sont par trop indifférenciés, et nous devons protéger les populations civiles. En fait, par cette formulation, nous devons cesser les attaques, on comprend que inconsciemment, il s'assimile totalement à la défense de Netanyahou, ou à son droit à des défenses. La France, le président français a souvent dit que la défense, le droit à la défense d'Israël devait se faire dans le respect du droit humanitaire. Mais il n'a jamais dit que jusqu'à présent, l'État israélien, le gouvernement israélien, l'armée israélienne n'ont jamais respecté le droit humanitaire et l'ont constamment violé. Donc en fait, on voit que le gouvernement français, le président français, n'arrive pas à faire une critique radicale de la situation, des comportements de l'armée israélienne et du gouvernement israélien.
Ah, merci.
Seuls quelques députés français et des manifestations peuvent le faire.
En effet, donc, d'un point de vue donc, de souveraineté, le seul pays qui actuellement peut se permettre, parce qu'il n'a aucun rapport avec les autres pays étrangers dans le monde entier à cause de cet embargo qu'ils ont subi depuis 2011, hein, je parle du Yémen, c'est finalement le seul pays à l'heure actuelle de pouvoir faire de manière souveraine ce genre de blocus sans être impacté d'un point de vue financier, puisqu'ils sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Madame Midani, ça me fait penser à la Syrie, lorsqu'il y a eu des déclarations concernant les casques blancs, vus comme les super-héros de la situation syrienne. Une ONG qui était finalement basée à Londres, qui parlait de ce qui se passait en Syrie sans être sur place. C'est du déjà vu, pour vous.
Absolument. Là. Oui, oui, c'est tout à fait ça. La fameuse Organisation des droits de l'homme, c'était une organisation qui opérait à Londres et qui était créée de toutes pièces par les renseignements britanniques. C'est pas seulement qu'ils n'étaient pas sur place, qu'ils étaient complètement alignés sur les positions des agresseurs. et des terroristes. Et puis les casques blancs n'étaient rien d'autre que des terroristes qui ont changé de casquette. Et c'est le cas de le dire. Donc en fait, c'est effectivement la situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays occidentaux qui sont dans la mouvance de l'OTAN, ils obéissent aux ordres américains et les Américains soutiennent totalement, effectivement, ce génocide mené par Israël contre le peuple palestinien. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, il est important de voir quand même. On est en train d'invoquer toujours, les États-Unis sont toujours en train de jouer avec le droit international, avec les sanctions. Alors, n'oubliez pas que Gaza est sous sanctions quand même depuis 2007, hein, sous blocus total. La Syrie, c'est pareil, elle est sous blocus total depuis 2011-2012. Et la situation ne cesse de s'aggraver et les sanctions ne cessent de tomber. La Russie est sous sanctions aussi depuis le début de l'opération en Ukraine. La Chine est sous sanctions. Enfin, les Américains, ils n'arrêtent pas de distribuer les sanctions. Je rappelle quand même que l'Iran aussi est sous sanctions et tous les pays sont arrosés de sanctions à partir du moment où ils ne se soumettent pas à l'ordre de l'ex-majesté, en fait, les États-Unis plus l'Angleterre. Alors, ça, c'est aussi un point qu'il faut voir, et il est temps d'en prendre conscience, et il est temps aussi que dans les organisations de l'ONU, qu'on arrive à se débarrasser de cette tutelle américaine qui impose à ces institutions de soutenir, je dis entre guillemets, soutenir, mais elles finissent de s'aligner sur les positions américaines dans toutes les situations qui surviennent dans le monde. Et je rappelle quand même, l'ONU est une organisation qui doit garantir la paix dans le monde, qui doit garantir de bonnes relations entre les différents pays et qui interdit aussi l'intervention armée et les ingérences d'un pays à l'autre. Alors, franchement, on voit qu'aujourd'hui, cette ONU, elle est complètement neutralisée, malheureusement, et qu'on n'arrête pas de jouer, on n'arrête pas de jouer, malgré quand même la position que je salue d'Antonio Guterres, qui a effectivement dit que la situation à Gaza est une situation catastrophique et qu'il est temps, il faut impérativement arrêter. Je rappelle quand même cette réunion qui a eu lieu où il y avait 153 pays qui ont voté pour arrêter effectivement les bombardements et cesser le feu à Gaza et qu'il y avait juste les États-Unis avec Israël qui ont fait un veto total à cette décision. Donc, en Merci. Fait, c'est vrai que les États-Unis font pratiquement, malheureusement, la pluie et le beau temps dans les organisations internationales. Donc, la seule situation, c'est que les peuples doivent se défendre par les moyens qu'ils ont et aussi, y compris, les moyens de blocus aussi au niveau de certains pays, de la marine, des passages maritimes. Parce que c'est aussi la seule chose qui fait écho, c'est quand on prend les pays par ce qui leur fait mal, c'est l'économie.
Merci Madame Midani. Monsieur Cornu, peut-être un dernier mot, en sachant que ce sera la conclusion du débat. Nous avons à peine une minute. Si vous le voulez bien, je vous laisse conclure sur ce que Madame Midani a dit.
Tout à fait, et sans oublier les moyens du droit international, puisque maintenant l'Afrique du Sud a pu saisir la Cour internationale de justice avec un dossier très bien fait, que j'ai écouté attentivement, dont on a très peu parlé en France malheureusement, et aussi par la Cour pénale internationale qui a été saisie, pour lequel que le Mexique et le Chili ont demandé qu'elle soit saisie pour traiter justement des crimes et enquêter sur ces crimes-là et pouvoir mettre en accusation les personnels dirigeants de l'État israélien qui commettent ce génocide en ce moment.
Merci, Monsieur Cornus. Donc, ce sont ces mots que nous finissons notre débat du jour. Je le rappelle, on parlait du fait de mettre donc le Yémen, donc les Houthis, derrière de nouveau la liste terroriste des États-Unis et du fait de la légitimité donc de ces pays à vouloir réagir face à une atrocité qui se passe dans leur voisinage, une atrocité humaine dont on rappelle femmes et enfants sont les premiers touchés et dont à l'heure actuelle on parle d'une crise humanitaire où il faudra des années, voire peut-être jamais, pour en revenir. Je vous remercie d'avoir suivi Presse TV et son débat. Je vous propose de voir ou revoir notre débat et nos débats sur notre site ou nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne Téhéran pour un autre sujet de débat et qui soutient toujours la Palestine. Depuis le 7 octobre, nous suivons la situation et nous soutenons la cause palestinienne. Je vous dis au revoir.
Au revoir.
La perte d'influence de la France en Afrique explique le retrait des banques tricolores. Après le désengagement du continent du Crédit Agricole, du BPCE, suivi de celui de BNP Paribas, c'est au tour de la Société Générale, la banque française la plus présente sur le continent, d'initier la réduction de sa voilure en Afrique. Le groupe vient de céder 4 de ses filiales africaines, à savoir les filiales Société Générale Congo, 93,5%, Société Générale de Banque Guinée-Équatoriale, 57,2%, Société Générale Mauritanie, 95,5%, et Société Générale Tchad, 67,8%. Les deux premières ont été cédées au groupe Vista de Simon Timter, alors que les secondes ont été acquises par le groupe Coris Bank International du Burkinabé et Drissa Nassa. Les deux groupes bancaires panafricains, Vista et Coris, reprendraient la totalité des activités opérées par Société Générale au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs au sein de ces entités, estime la Société Générale. Dans ce contexte, la Société Générale a bel et bien l'intention de s'affirmer dans ses prêts carrés africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Maroc ou du Cameroun. Dans le même temps, elle cède certaines de ses filiales, les plus petites, notamment au Tchad, en Guinée équatoriale et en Mauritanie. Quoi qu'il en soit, ces concessions ne doivent pas occulter la tendance observée ces dernières années, et qui a vu les grandes banques françaises se désengager du continent. C'est le cas du Crédit Agricole, du BPCE et de BNP Paribas qui ont quitté définitivement ou ont cédé presque la quasi-totalité de leurs filiales africaines. Une tendance entamée dès la fin des années 1990 et qui s'est, du reste, précipitée par la suite. De fait, le groupe Crédit Agricole a initié son désengagement continental dès la fin des années 2000 avec la cession de sa filiale Crédit du Maroc au groupe marocain Olmarcom. De même, le Crédit Agricole ne compte plus qu'une seule filiale en Afrique, celle d'Égypte. Le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne BPCE ont assurément confirmé également cette évolution. BNP Paribas, qui peut se targuer d'être la plus grande banque européenne en termes d'actifs, a suivi les deux groupes tricolores. Si elle a initié son désengagement en 2010 avec la cession de sa filiale mauritanienne, la banque n'a pas hésité à céder la bagatelle de 6 filiales aux Comores, au Gabon, en Tunisie, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Pour mémoire, en 2022, BNP Paribas a aussi cédé sa filiale sénégalaise et ne compte désormais que 2 filiales implantées en Côte d'Ivoire et au Maroc. La filiale ivoirienne du groupe est sur la liste des filiales africaines à céder, confirme Moussa Diop. Ainsi, le groupe ne devrait toutefois conserver que sa filiale marocaine BMCI, indique ce dernier. Dès lors, on soulignera volontiers que c'est bien le système bancaire marocain qui profite très largement du désengagement, pour ne pas dire du retrait, des banques françaises. Dans cette perspective, plusieurs facteurs expliquent ces engagements. Le recentrage des banques tricolores trouve son fondement par des objectifs de rentabilité et d'amélioration de leurs indicateurs financiers. Mais il en va aussi et surtout de la perte d'influence économique française en Afrique et l'essor très palpable de nouveaux champions bancaires du continent tels que Attijariwafa Bank, Bank of Africa, Banque Populaire, Coris Bank, First Bank, Standard Bank Group, Absa Bank, Eco Bank ou bien même United Bank for Africa et Dora Group. On n'en saurait occulter l'influence grandissante de nouveaux pays du continent, à l'instar du Maroc, de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou bien même de l'Égypte. Étrangers tels que la Chine, la Turquie, la Russie ou encore l'Inde, au détriment de la France, dans les pays francophones du continent. On l'aura donc compris, après le Crédit Agricole, BPCE et BNP Paribas, la Société Générale cède ses plus petites filiales sur le continent. La réduction de la voilure des banques françaises s'explique bien entendu également par la perte d'influence croissante et inexorable de la France en Afrique. La bascule du monde. Quelques données économiques à prendre en compte. En 2000, le PIB cumulé des 5 pays devenus BRICS en 2008, 2736 milliards de dollars, représentait près du quart de celui des États-Unis, 10 250, plus du tiers de celui des 27 pays membres de l'Union européenne d'aujourd'hui, 7 270. Le 1er janvier 2024, après élargissement, ce PIB cumulé aura été multiplié par plus de 11, à 30 700 milliards de dollars. Il aura dépassé celui des États-Unis en 2022, 25 040, et distancé très largement celui d'une Union européenne sans le Royaume-Uni. Tiré par des croissances indienne et chinoise, prévues à 6,3% et 5% en 2023, ce PIB cumulé des BRICS continue de croître 4 fois plus vite que celui de l'Occident, États-Unis, Union européenne. La création de la Banque des BRICS, et de l'AIIB, l'entrée en 2016 du yuan RMB dans le panier des devises de réserve du FMI, la dédollarisation progressive, mais qui s'accélère, des échanges internationaux, la mise en place fin 2016 par la Chine d'outils nationaux pour les transferts électroniques, boursiers et monétaires, la création par les BRICS d'une agence de notation non anglo-saxonne, vont bousculer toujours plus les règles de gouvernance économique mondiale héritées de Bretton Woods. Cette montée en puissance des BRICS et de leurs projets suscite intérêt et soutien dans de nombreux pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. lassé de la tyrannie économique et politique imposée par le monde, USA OTAN, en témoignant le nombre important de nouveaux candidats. Qu'on le veuille ou non, ces évolutions vont se faire au détriment de la coalition occidentale. Avec l'élargissement des BRICS au 1er janvier 2024, elle pourrait être beaucoup plus rapide qu'on ne le croit aujourd'hui et reléguer le monde USA OTAN, AUKUS, Union européenne G7+, en deuxième division. À moyen terme, d'autant qu'on peut compter sur la Russie qui va prendre la présidence des BRICS pour accélérer le processus d'élargissement et de dédollarisation qui suivra. Les gouvernances de l'Occident global ont toutes les raisons de s'inquiéter sur l'avenir de leur pays. D'autant que, dans la vraie vie, la comparaison des PIB ne devrait pas se faire en dollars nominal, mais en dollars PPA, parité de pouvoir d'achat.
Thank you.